Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, réalisée par Véronique Villa, préparée par Marie Dalquier, avec à la technique Michel Palares. Aujourd'hui, je reçois Marguerite Cardoz pour parler des dialogues avec l'ange. Marguerite Cardoz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes linguiste, orientaliste, spécialiste du Proche-Orient et thérapeute. Vous pratiquez en effet l'énergétique chinoise traditionnelle, la naturopathie, le Qigong. Et puis, depuis plus de 20 ans, vous donnez des stages sur le livre « Les dialogues avec l'ange » et sur les médecines sacrées et leurs applications actuelles. Alors, si je vous invitais aujourd'hui, on pourrait parler de beaucoup de choses avec vous. C'est plutôt pour parler des dialogues avec l'ange, qui est un ouvrage. Alors, pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, je vais dire en deux mots comment ça se présente. C'est un livre avec une couverture toute blanche où il y a marqué « Dialogue avec l'ange » sans nom d'auteur. Et puis, à l'intérieur, on voit « Dialogue avec l'ange, les quatre messagers », un document recueilli par Gita Malaz et présenté par Claude Métra dans l'édition que j'ai. Donc, on se dit, mais qui est l'auteur de ce livre? Et puis, quand on le lit, on voit que c'est des dialogues entre des personnes et un messager qui se présente comme l'ange. Alors, expliquez-nous un petit peu toute cette histoire, parce que je crois que ça s'est passé en Hongrie.
Oui.
Et vous êtes vous-même d'origine hongroise, donc vous êtes lié un peu à tout ça. Racontez-nous l'histoire de cette, entre guillemets, révélation angélique.
Oui, en effet, c'est un livre révélé. J'ai eu la chance de connaître Gita Malaz dès mon enfance, mais véritablement, c'est à l'âge de 20 ans, en 1965, quand je suis arrivée en France, qu'elle m'a prêté le manuscrit hongrois de Dialogue avec l'ange, parce que j'étais moi-même dans une crise d'identité et une crise spirituelle. Et pour m'élever un peu de la psychologie où j'étais un peu empêtrée, elle m'a montré un autre chemin, mais sans me révéler qu'elle était dans cette histoire. Elle m'a prêté le manuscrit et je suis tombée amoureuse instantanément de ce texte. Et moi qui voulais me supprimer, me suicider, finalement j'ai remis à plus tard, si j'ose dire, ma décision, tellement j'étais absorbée dans la lecture de ce livre. Gita a changé les prénoms hongrois pour que personne ne puisse reconnaître qu'elle était dans cette histoire, tellement elle voulait être transparent, comme plus tard j'ai découvert dans le texte, l'ange qui demande cette transparence et être invisible, soyez invisible, comme lui est invisible. Et en hongrois, évidemment, le texte est beaucoup plus percutant. C'est un peu comme un chant chamanique, comme un chant venu du fond des âges. C'est rythmé, il y a des rimes. Et puisque la langue hongroise est très ancienne et très concentrée, il y a 25% moins de pages qu'en français. Et le langage est extrêmement, à la fois moderne, à la fois archaïque, très poétique, et ça m'a saisi tout de suite dans un niveau de moi que seule la grande poésie peut faire vibrer en moi. Et donc Gita était le scribe de l'ange. L'ange, en tant que maître intérieur, est apparu pour enseigner ces quatre personnes. D'abord, c'était en 1943, le 25 juin, Gita et Hanna à Budaliget buvaient le café un vendredi à 15h, après un repas, et elles bavardaient. Et Gita présentait à Hanna une liste de ses entraves pour être en contact avec sa propre profondeur, avec sa propre vérité. Et Hanna, d'un coup, a senti en elle comme une colère, une sainte colère qui montait, et elle a attrapé le papier et elle a vu avec ses yeux humains, elle a vu que quelqu'un prend ce papier de sa main et l'arrache et jette aux pieds de Gita, et les paroles sont sorties de la bouche de Hanna, de la part du maître intérieur de Gita, qui disait on va te faire habituer de poser des questions inutiles. Tu seras labouré par des questionnements. Tu as un nom nouveau, mais je ne peux pas encore te révéler. Tu es païenne, mais c'est bien ainsi. Et etc. Alors, bien sûr, elles étaient à la fois émerveillées, ces deux femmes. Ça durait quelques minutes, très peu. Et elles se regardaient. Gita et Hanna sentaient que c'est quelque chose de plus que ce que Hanna pourrait dire et que Gita, qu'elles étaient connectées avec une force qui est venue les visiter. Et elles ont tout de suite noté. Et Gita commençait à se dire, mais est-ce que ce maître va revenir? Est-ce que jamais Hanna pourrait encore me mettre en contact avec ma propre profondeur? Parce que moi, je suis comme extérieure à moi. J'ai une écorce qui me sépare de ma sève, de ma propre sève de vie. Et je ne veux plus vivre dans ce mensonge ni politique, ni culturel, ni psychologique où je suis empêtrée. Mais je cherche quelque chose, mais je ne sais pas comment l'appeler. Et alors, Hanna lui dit, j'ai le pressentiment que dans une semaine, à la même heure, ce maître va peut-être se manifester. Et ainsi, tous les vendredis, pendant 17 mois, ce qui est unique dans l'histoire de l'humanité, que l'ange vienne à un lieu de rendez-vous, tous les deux d'abord, après Lily, très vite, une autre amie de Gita s'est branchée sur cet enseignement, et puis Joseph, le mari de Hanna. Il faut dire que c'était quatre personnes qui pratiquaient aucune religion, qui avaient une recherche spirituelle intense, qui lisaient la Bhagavad Gita, qui lisaient de Lao Tzu, le Tao Te King, qui lisaient Brunton sur les secrets de l'Inde, qui avait une vraie recherche, une soif infinie de vérité, mais qui n'était engagée dans aucune religion. Hanna, Lily et Joseph étaient d'origine juive, mais ils ne sont jamais entrés à la synagogue. Pourtant, c'est la plus belle synagogue de l'Europe à Budapest, mais ils n'ont pas pratiqué leur religion, ils ne connaissaient pas leur religion. Et Gita, qui était chrétienne, c'est grâce à elle que nous pouvons avoir le texte. Elle était chrétienne, mais elle ne pratiquait pas non plus depuis sa première communion. Elle n'est pas entrée dans une église. C'était des gens libres, extrêmement modernes, qui s'occupaient de faire des affiches, de la pub. Joseph était designer, Lily était masseuse, elle donnait des cours de mouvement. Elle était prof de yoga. Gita était elle-même championne de natation mondialement connue et adulée en Hongrie, comme la Hongrie peut aimer à fond ses sportifs. Elle ne pouvait pas traverser la rue sans qu'on lui demande des signatures. Et elle a eu envie de couper tout à un moment donné au bout de 15 ans de pratique sportive extrêmement intense. Elle a voulu retrouver Hanna, qu'elle a connue à l'âge de 16 ans, sur les bancs de l'école de Beaux-Arts, parce qu'elle dessinait super bien toutes les deux. Et quand elle a retrouvé Hanna, un peu dégoûtée de cette célébrité et de sentir qu'elle ne fait que développer ses muscles et que son amour propre était suffisamment nourri de l'adulation de la foule pour se dire non, c'est pas ça qui m'intéresse. Et elle retrouve Hanna, et avec Hanna et Joseph, ils vont ouvrir un atelier de graphisme. Et Lily vont venir les voir, parce que Lily était masseuse de Gita, parce que Gita passait 11 heures par jour dans l'eau froide à Margitsziget, sur l'île Sainte-Marguerite, au milieu du Danube, à Budapest, dans le centre sportif. Et elle avait les muscles en béton, en acier inox, comme elle me disait. Et Lily l'a massée pour pouvoir continuer les entraînements. Donc, quatre personnes ordinaires, qui vont, par leur soif, leur immense soif, être connectés avec leur maître intérieur. Et pendant 42 rencontres, l'ange, c'est-à-dire ce maître intérieur, ne va pas dire qui il est. Et c'est à la 42e rencontre, véritablement, que l'ange dit « Nous sommes des anges, notre parole est vérité ». Donc il y a une structure de tripartite, de cet enseignement, la première partie, entre la première rencontre jusqu'à la 40e rencontre, 40e entretien, ça se passe à Budaligget, à côté de Budapest. Après, à Budapest, au centre de Budapest, à côté de la gare de l'Est de Budapest, parce qu'ils sont menacés par la guerre. La guerre avance, l'antisémitisme avance aussi. Et à partir du 41 jusqu'au 58 entretien, ce sera donné dans l'appartement des parents de Hannah. Et ensuite, Gita a eu une idée géniale pour sauver ses amis, pour essayer de sauver ses amis de la persécution et de la déportation. Avec un prêtre hongrois, elle a monté une usine de guerre où les femmes, 135 femmes, fabriquaient des vêtements de militaires pour les soldats. Et elle a exigé que Hodna et Lily fassent partie de cette équipe. Et elle a espéré donc sauver leur vie. Et malheureusement, la dernière entretien, c'est le 24 novembre 1944. Et le 2 décembre, Lily et Hodna avec... 13 autres, enfin en tout 13 personnes vont être déportées à Ravensbrück et de Ravensbrück vers Dachau. Et dans le train, malheureusement, elles vont mourir. Elles vont mourir. Et Gita va reprendre le flambeau, mais d'abord, elle ne peut pas en parler dans le régime bolchevique totalitaire. Elle va souffrir beaucoup pendant 15 ans de ne pas pouvoir en parler. Et seulement en 1960, à l'âge de 58 ans, elle viendra en France pour faire traduire, et pour faire éditer Dialogue avec l'ange. Et pendant 15 ans, nous avons travaillé sur la traduction. Et après, par miracle, Claude Mettra et Yves Jégu et une équipe amoureuse du texte a pu faire une excellente soirée. C'était ici, à France Culture, Les vivants et les dieux. Michel Cazenave a fait un film extraordinaire sur Gita, 6 semaines avant sa naissance au ciel, à Gita, intitulé « Le script de l'ange », parce que Gita a toujours dit « Ce livre ne vient pas de moi, surtout je ne suis pas l'auteur de ce livre ». Elle était même furieuse.
Oui, c'est pour ça qu'il n'y a pas de signature sur la couverture.
Oui, oui.
Alors, avant qu'on rentre dans le cœur des Inlats, vous avez très bien raconté comment est née cette aventure. Mm-hmm. Avant qu'on rentre, et ce sera l'essentiel de l'émission, sur le message de ce livre, qui donc, on l'a compris, a été édité assez tard après ces expériences, j'aimerais que vous me disiez un mot, parce que vous êtes quand même une spécialiste du Proche-Orient, des anges. Pour ceux de nos auditeurs qui peuvent se poser la question, mais c'est quoi un ange? Parce que là, on est quand même dans des sphères très élevées. Qu'est-ce que c'est qu'un ange et comment est apparue l'idée d'ange dans la culture humaine? Et je crois que c'est en Mésopotamie la première fois qu'apparaissent les anges.
Oui, en effet, parce que c'est la première culture que nous puissions déchiffrer. Nous avons des tablettes d'argile au Louvre et au British Museum et un peu partout dans le monde. Et l'ange apparaît comme, en pictogramme, comme un crochet qui descend. Et l'homme comme un autre crochet qui s'accroche à ce crochet qui descend. Donc, il y a comme un emboîtement, comme une union mystique, on peut dire, un mariage entre cette polarité de lumière que l'homme porte en lui. Mais il doit découvrir cette polarité de lumière. Et cette polarité de lumière va s'appeler de différentes manières. Et va s'appeler le messager, va s'appeler angelos, c'est-à-dire messager, chez les Grecs. Mais avant tout, sur les textes sumériens, Marchipi, ça s'appelle Marchazé, ou Lou Ragab, l'émissaire, ou Lou Rim.
Et tous ces noms-là seront repris dans la Bible ensuite.
Ensuite, exactement, à cause de la captivité en Babylone des juifs. C'est apparu dans la Pléiade, dans la Bible écrite intertestamentaire, où on montre des textes sumériens traduits en hébreu.
Oui, puis il y a aussi le contact des Hébreux avec le zoroastrisme, avec la Perse, à cause de Babylone aussi. Ils ont été libérés par Cyrus. Et donc, chez les zoroastriens, il y a aussi une tradition.
Et justement, Henri Corbin était spécialiste de l'angélologie iranienne. Voilà. Et j'ai eu la chance d'être disciple, élève de Henri Corbin. Et donc les premières représentations d'anges émergent des ruines des villes sumériennes comme Ur, Uruk, Eridu, Kalak.
Donc il y a 3000 ans avant Jésus-Christ, tout ça.
Ben, c'est bien avant, c'est 4500 avant Jésus-Christ. Déjà, nous avons des représentations, mais l'écriture elle-même, c'est 3550 avant Jésus-Christ que l'écriture est vraiment lisible, pas seulement un décor, mais...
Et donc l'ange apparaît dès l'époque sumérienne, ensuite repris dans la tradition biblique, comme un messager, un intermédiaire entre Dieu et l'homme.
Comme une articulation.
Une articulation entre le monde céleste et le monde humain.
C'est ça que moi j'ai besoin pour lever mon bras, une articulation à l'épaule ou au poignet. Et cette articulation, finalement, est invisible. Mais je ne peux pas être en contact avec mon avant-bras si je n'ai pas entre la tête et l'épaule, quelque chose qui permet cette articulation.
Mais alors, est-ce que c'est une entité en soi ? C'est-à-dire que, est-ce que l'ange existe comme un pur esprit ? Ou est-ce que c'est une sorte de voix intérieure, de maître intérieur, que chacun a comme une dimension de son individualité, si
vous voulez ? C'est une dimension de son individualité. Au sommet de l'individualité de chacun apparaît l'ange. Mais ça s'appelle en vérité maître intérieur, ça s'appelle
le
la
soi,
voix du cœur, ou c'est le soi, le grand soi de
en Orient ou chez Jung.
Et c'est pas par hasard que les Jungiens étaient les premiers qui invitaient Gita en 1983 pour parler à l'Institut Jung, parce qu'ils ont découvert que ce que Jung a dit de cette pôle de lumière en soi,
ça correspondait à l'ange, au maître intérieur.
Mais chez Ruz Behan de Shiraz, chez Ibn Arabi, chez tous les grands mystiques iraniens et dans la mystique musulmane aussi, apparaît constamment l'ange. C'est même la profession de foi musulmane qui exige de croire aux anges.
On va lire un texte tout de suite sur l'ange, là justement. Alors aujourd'hui, Lélie Anvar ne peut pas être présente à cette émission, mais nous avons une lectrice... que vous connaissez bien, dont vous allez nous dire un mot, qui est une merveilleuse ambassadrice des anges, qui est Juliette Binoche, la comédienne, qui s'intéresse beaucoup à ce livre, Les dialogues avec l'ange. Comment est-ce que vous avez rencontré Juliette Binoche ? Parce que c'est par votre intermédiaire que ces lectures se sont faites.
Oui, c'est Juliette qui m'a contactée pour me rencontrer, pour que je lui parle de Gita. Il me semble que c'est dans la nuit des temps et depuis toujours que nous sommes âmes sœurs. Et nous avons ensemble une vénération pour ce texte et ce texte nous a immédiatement réunis et nous avons passé, au lieu d'une demi-heure comme prévu, nous avons passé 3 heures ensemble à la première fois et depuis, chaque fois que nous nous rencontrons, nous échangeons, nous approfondissons. Elle m'a même fait l'honneur de participer à quelques séminaires et quelques soirées que je fais autour du dialogue avec l'ange. Elle a une soif, elle a une sensibilité extraordinaire pour le sacré. Elle reconnaît tout de suite, que ce soit dans l'art, dans la poésie, dans la peinture, que dans les textes, le souffle du sacré. Et immédiatement, on est devenus comme inséparables. Elle est, je crois, nous n'avons pas meilleure ambassadrice pour les anges que Juliette.
Alors nous allons l'écouter.
Merci.
Lily, est-ce que chacun a son guide, son ange instructeur ? Non, nous sommes faits de foi. Celui qui a la foi a son maître, et la foi, c'est sa force. Si tu crois que j'ai une voix, je peux parler. Si tu ne le crois pas, je suis muet. Si tu crois que je suis toi, je le serai. C'est ta foi placée en haut. Tu peux placer ta foi aussi en bas. Cela ne dépend que de toi. Nous descendons à travers votre foi, car la foi, c'est le pont.
À travers cette très belle lecture, c'est qu'au fond, c'est à travers la foi qu'on peut se contacter à cet être intérieur et établir ce lien avec la dimension la plus profonde de nous-mêmes. Mais la base, c'est quand même la foi. C'est ce que dit clairement le texte, c'est qu'il faut une certaine foi, pas forcément une foi religieuse. Ça peut être une foi dans la vie, une foi dans l'invisible, une foi dans le sens que peut avoir la vie pour se connecter à ce guide intérieur qu'on appellera l'ange.
Pour Hanna, oui, elle avait la foi. Mais Gita, je ne pense pas qu'elle avait vraiment... elle avait une soif. Moi, j'appellerais la vraie foi, c'est une soif d'infini en soi. Et une intensité. Gita avait et la soif et l'intensité et une honnêteté profonde, une recherche de la vérité. Et
une quête, alors,
une
plutôt.
Une quête profonde. Et quand l'ange lui dit à Gita, si en commencement, chacun de tes actes, tu lui envoies une pensée, tu te sentiras de moins en moins séparé de lui. C'est ça le but. Alors, hongrois, on connaît pas la langue hongroise ne connaît pas le masculin et le féminin. Hongrois, le E, ça veut dire et lui, c'est-à-dire ça veut dire l'absolu. Et ça veut dire Dieu. Mais les anges ne prononcent pas le mot Dieu, jamais, à travers les 88 rencontres. Et c'est cette séparation en nous qui crée la souffrance. Et la foi est le pont au-dessus de l'abîme qui nous sépare de ces deux polarités, en nous, qui s'appelle la vie sans lumière et la vie avec un éclairage, avec une lumière, une reliance. La foi est une reliance.
Transformation merveilleuse commence. Mais cela ne vous paraît pas toujours bon. Les anciennes enveloppes éclatent, elles se déchirent, elles tombent en lambeaux. Ne vous effrayez pas. Ce qui vous arrive n'est pas peu de chose. Ne t'inquiète pas, car l'obstacle te renforce lui aussi. Plus grand est l'obstacle, plus grande est la confiance en ta force. La grandeur de l'obstacle n'est pas punition, mais confiance. Il n'y a pas d'abîme si sombre, il n'y a pas de falaise si haute, il n'y a pas d'égarement si tortueux qui ne soit pas voie. En toi est le nouveau. Tout est en toi et non en dehors de toi. Le nouveau est toujours au-dedans et jamais au-dehors.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel et nous poursuivons cette conversation avec Marguerite Cardoz sur les dialogues avec l'ange. Nous venons, Marguerite Cardoz, d'entendre Juliette Binoche lire un deuxième extrait de ces dialogues qui montre qu'effectivement ce que l'homme a à faire, c'est un travail de transformation intérieure pour faire naître un homme nouveau et qui nous dit que du coup, même tous les obstacles qui sont sur notre route peuvent nous aider dans ce travail qui renforce finalement la foi, la transformation, qui sont là pour nous aider à avancer sur un chemin spirituel.
Oui, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que l'ange dit, la première et deuxième rencontre, dit « Sois indépendant, marche sur ton propre chemin et tout le reste est égarement. » Et donc l'ange ne demande pas que nous obéissions à son injonction. Il demande que nous soyons coopérants, coéquipiers avec l'ange. L'homme est comme une ellipse à double foyer. Et l'ange souhaite que l'homme s'éveille, monte vers cet éveil en lui, où il peut rencontrer l'ange. Et cet éveil peut venir aussi par des chemins tortueux, par des falaises qui semblent infranchissables, parce que tout est voie pour l'ange. Et ainsi, ce sera un peu comme Sainte Thérèse, la petite Sainte Thérèse qui disait « Tout est grâce,
oui,
je choisis tout ».
Oui, y compris la sœur à côté de moi qui ronfle et qui me casse les pieds, etc. Mais tout ce qui grâce. Arrive sur
tout
mon chemin est grâce. Oui.
Est grâce et aide finalement pour l'éveil. Parce que l'ange nous invite à cet éveil. Et les bouddhistes aussi aiment beaucoup Dialogue avec l'ange. Je connais beaucoup de Tibétains qui lisent Dialogue avec l'ange, bon, en français ou en anglais. Mais qui ont découvert que cet éveil finalement est universel, c'est la demande de chaque être humain. Et c'est ça qui est extraordinaire dans le Dialogue avec l'ange, que c'est au-dessus des religions, au-dessus des philosophies, au-dessus des engagements.
Alors tout à fait, je dirais que c'est transversal. C'est qu'effectivement, moi ce qui me frappe dans ce texte, qui connaît un petit peu les religions, c'est qu'on va dire ce texte-là, il dit, avec beaucoup de poésie, hein, comme on l'a entendu, il dit un message qui est le cœur de toutes les spiritualités du monde, qu'on peut retrouver, comme vous disiez, dans le bouddhisme, dans le christianisme, dans le taoïsme, et donc qui est ce message qu'on a tous une lumière en nous qui peut grandir, et qu'on a un travail, d'une certaine manière, une seconde naissance à faire, passer de l'homme charnel à l'homme spirituel, et que toute la vie est là pour nous aider à accoucher dans cette seconde naissance où on s'éveille de plus en plus à une compréhension, à une connaissance de nous-mêmes, de la vie, de l'absolu. Et c'est vrai que ce texte, il est transversal, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le lier spécialement à une culture, à une révélation.
Oui.
En cela, il intéresse effectivement beaucoup de gens. Moi, si je vous ai invité, c'est parce que je connais beaucoup de gens qui s'inspirent de ce texte et qui peuvent être athées, croyants, bouddhistes, juifs, musulmans, peu importe. Alors on va écouter un troisième extrait des Dialogues avec l'ange, lu par Juliette Binoche.
Je vous parle du berceau de la joie. Haine, feu, poison, c'est cela le berceau de la joie. Le monde créé est son corps. Dans ton corps, il y a feu qui ne détruit pas, poison qui ne tue pas. Comment est-ce possible ? Tout est bon dans le projet. Son mystère, comprenez le bien, c'est la transformation. L'homme est le grand transformateur. Les forces dévastatrices ne sont pas à leur place, c'est pour cela qu'elles détruisent. Car il n'y a pas de mal, il n'y a que la tâche qui n'est pas reconnue. Son non-accomplissement te détruit. C'est en cela que le mal est le berceau de la joie. Le mal et le bien en formation, mais pas encore prêt. Si tu élèves tout, tu tiens dans ta main la joie éternelle. L'homme est le sceptre dans la main de Dieu. Le sceptre est le lien entre haut et bas.
Quelle transformation, justement. L'ange nous demande de brûler. Quand Gita demanda à l'ange « Mais qu'est-ce que tu souhaites que je sois ?»« Mais brûle, crie Hanna. » Et cette transformation qui nous est demandée, en même temps, est une offrande à ce que l'ange puisse entrer dans notre monde. C'est-à-dire au fur et à mesure que l'ange nous parle, nous délivrons aussi l'ange et un des mots clés de Dialogue avec l'ange, c'est la délivrance. La délivrance, c'est quoi? C'est l'éveil. C'est la délivrance de rêve, délivrance de l'erreur, délivrance
de l'ignorance. L'illusion.
Et cette transformation que l'ange nous demande aussi une nudité, demande d'abandonner notre structure mentale, demande à s'effriter, à se laisser blabourer par cette parole de feu que l'ange nous donne, nous transmet. Et quand l'ange dit que l'homme est le grand transformateur et que si tu élèves tout, tu tiens dans ta main la joie éternelle, il faut aussi savoir que c'était sous les bombardements, c'était dans la persécution. On a déjà appris qu'il y avait des chambres à gaz, qu'ils étaient menacés dans leur existence, il n'y avait plus de travail, il y avait un dénuement total dans leur vie et on leur demande de transformer tout ça en berceau de la joie.
Tout à fait, quand on dit le mal et le berceau de la joie, c'est pas les ampoules aux pieds, hein. C'est vraiment, on est dans l'horreur.
L'horreur absolue de la guerre, de la persécution, de la famine, de la peur profonde. Et irrémédiablement, la guerre est là et on leur demande cet hymne à la joie que le berceau de la joie nous transmet.
Ce texte me fait incroyablement penser à Iti Ilsoum.
Ah, tout à fait.
C'est vraiment
évidemment,
le même esprit de cette jeune fille juive qui va mourir en camp de concentration et qui est dans une joie incroyable et qui transmet encore cette foi en la vie, en l'amour, malgré tout.
Et qui dit que Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de l'homme pour exister, pour faire être le divin sur terre. Et c'est dans la main de l'homme. Je vous donne le sceptre entre le haut et le bas, dit l'ange. C'est l'homme a ce pouvoir de transformation. Au lieu de pleurnicher et de se plaindre et d'être dans la victimisation, l'homme peut, dans sa main, et il y a le pouvoir de transformation des malheurs en bénédiction. Mais il ne peut pas le faire à partir de sa conscience ou de sa volonté. Il faut qu'il abdique et qu'il descende dans des zones créatrices en lui, dans ces fameux dans ces énergies créatrices, puisque le schéma le plus important de ce livre, c'est le chandelier à sept branches, où on montre les différents règnes, et l'homme est au centre, et ce sceptre qui est l'homme est ce centre qui relie les forces créatrices et les forces du monde, c'est-à-dire de la nature, du minéral, du végétal, de l'animal, et des forces divines, des forces créatrices, des forces d'inspiration, des forces de révélation.
Mais comment parvenir à cet état de force créatrice, c'est par un abandon, un lâcher prise.
Absolument.
Comment se reconnecter à cette source divine intérieure qui permet d'être dans cette joie, dans cette fluidité? Il y a quand même un certain travail, un certain effort que l'homme doit faire pour ça.
Oui, c'est très beau quand Lily dit « Mais je cherche le Père, je cherche le Père ». Et l'ange dit « Mais tu n'as pas à le chercher, tu n'as qu'à céder, c'est lui qui te cherche. » Sentir que nos efforts sont peut-être vains, mais nous avons un effort surhumain pour garder nos vieilleries, nos convictions. Nous cramponnons à des idées, à des structures, à des religions, à beaucoup de choses qui sont pas assez vivants. Et l'ange nous invite à devenir vivants. Et on ne peut devenir vivant que si on lâche tout. Et l'ange dit aux quatre voyageurs, si j'ose dire, parce que c'est comme un guide de haute montagne, ce livre dit, mais vous ne pouvez y arriver que nu. Donc lâche tout ce que tu sais, tout ce que tu en sais, toutes tes interprétations, parce que ça vient du mental. Et essaye lâcher. Et c'est ça qui est difficile. Et justement, la crise nous permet de lâcher, parce qu'on ne peut plus continuer dans les mêmes
logiques
anciennes
actuelles.
Lancées. Et grâce à toutes sortes de crises intérieures, de mariage raté, de travail foiré, de licenciement.
Ça nous oblige à aller vers l'essentiel et aller dans l'être et pas dans l'avoir, à aller dans finalement des choses plus importantes que ce qui actuellement sont les logiques dominantes dans nos sociétés et qui finalement ont coupé. On est dans un monde très, très matérialiste dans lequel les valeurs intérieures n'ont plus lieu d'être. Et ce que vous nous expliquez, c'est que les crises que vivent les gens aujourd'hui, à la fois matérielle et morale, les oblige par la souffrance, par la difficulté, par l'échec, à aller vers cette intériorité profonde qu'on avait délaissée.
C'est une crise de sens qui frappe l'humanité en ce moment. Et justement, le dialogue avec l'ange nous permet de nous ressourcer, de montrer quelles sont les possibilités d'épanouissement de l'homme. Parce que pour moi, l'ange, c'est le tout possible en chacun de nous. Et ce texte nous révèle à chacun ce tout possible dans le métier et avec les dons spécifiques que nous avons, chacun. Et comme en chinois, par exemple, on appelle le mandat céleste, on doit accomplir son mandat céleste. On est sur terre pour accomplir un mandat céleste. Mais l'ange nous invite à accomplir la tâche. Nous avons chacun une tâche. Et cette tâche dépend de nos dons.
Oui, n'invite pas à changer de vie, mais à avoir un autre regard sur la vie.
Absolument. Et de descendre dans nos possibilités. Et l'ange nous dit, mais fais ce qui te donne la joie. Parce que tu es le berceau de la joie, mais fais ce qui te donne la joie. Ne fais pas un métier pour le « il faut ». Fais ou un mariage pour le « il faut ». Lâche le « il faut » et sois dans le « je peux ».
Saralam, saralam, átkozott gyötrelem. Miért nem virágoztál minden fa tetején? Minden fa tetején diófa levelén, hogy szakisztott volna minden lejáns legény. Mert én is szakisztottam, el is szalasztottam. Én is szakisztottam, s el is szalasztottam.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel en compagnie de Marguerite Cardoz pour parler du livre Les Dialogues avec l'Ange. Alors Marguerite Cardoz, je rappelle que vous êtes d'origine hongroise. On vient d'écouter un chant hongrois que vous avez choisi. Dites-nous-en un mot.
C'est un chant d'amour que nous avons chanté souvent avec Gitta et avec Lotti, son mari. Et ça m'a émue énormément d'entendre maintenant ce chant parce que... c'est la musique de Patient Anglais. Et c'est par Patient Anglais que j'ai rencontré la première fois Juliette Binoche. Et c'est une coïncidence extraordinaire parce que Dialogue avec l'Ange attire l'attention que le pont entre le monde créé et le monde créateur, le seul pont, c'est l'amour. C'est de découvrir par l'ouverture du cœur que tout est un acte d'amour, tout est fait de cette matière d'amour et que la matière la plus précieuse en nous, c'est de fabriquer à partir des ténèbres que nous rencontrons la lumière. Et que si les Égyptiens ont pesé le cœur, c'est parce que ce cœur était capable de transformer, chaque cœur humain est capable de transformer les ténèbres en lumière. Et le message le plus lumineux vraiment de Dialogue avec l'Ange, c'est Hannah qui dit... la connaissance, en vérité, est amour. Et c'est là où Dialogue avec l'Ange rejoint le message christique que Hannah, dont Hannah se nourrissait, puisque Hannah allait participer à toutes les liturgies de Noël et de Pâques dans la petite église à côté de Boudaliguette à Marie-Remetin. Et pendant 3 jours et 3 nuits, elle était là pour boire la parole de Jésus et elle était une inconditionnelle de ce sacrifice et de cette transformation et de cette force résurrectrice qui est en chacun de nous. Et elle l'a incarné vraiment dans sa vie et pour nous, pour que nous ayons aujourd'hui Dialogue avec l'Ange dans les mains. Hannah et Lily et Joseph se sont sacrifiés parce que Hannah et Lily sont partis vraiment en substitution, comme notre cher Louis Massignon aimait ce mot, la substitution. Elles se sont données pour que Gita reste en vie, pour que Gita puisse transmettre ce message jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à chez nous. Et ça donne une dimension extraordinaire, ce pur amour venu du cœur de Hannah, de Lily, de Joseph et de Gita, qui nous permet aujourd'hui de parler d'amour. Et Dialogue avec l'Ange, c'est un hymne à la joie, hymne à l'amour et à l'amour transformant qui permet de voir autrement, de faire pousser des nouvelles oreilles, de faire pousser des nouveaux yeux.
Alors on va écouter un nouvel extrait des dialogues avec l'ange, toujours lu par Juliette Binoche.
Je parle du sourire. La bouche représente la matière dans le visage. Elle est en bas. La force d'attirance vers le bas tire la bouche en bas. La force d'attirance vers le haut l'élève. Tout animal sait pleurer, gémir. Sourire, seul l'homme le sait. C'est la clé. Le sourire est à l'image de la délivrance. J'habite dans le sourire et je suis ta mesure. Le sourire répond au-dessus de l'ancien abîme. Pas le rictus ni le rire, le sourire. Le rire est le contraire des pleurs. Le sourire n'a pas de contraire. Sourire, parole, création sont les attributs de l'homme. Le sourire est la prière de chaque petite cellule.
Ah, il n'y a pas beaucoup de livres sur le sourire. Hein. Mais c'est un des plus beaux passages que l'humain puisse entendre sur le sourire. Et l'ange dit « Je ne suis présent que dans la joie, dans le sourire. Et avant de me rencontrer, avant de m'écouter, souris-moi, dit l'ange. » Et donc ce sourire... est devenu le sourire de l'ange de Reims aussi, qui était l'emblème de science et conscience que Yves Jégu, Michel Cazenave et les prix Nobel de physique ont choisi pour relier la science et conscience, mais conscience dans un niveau très large. Ougita a été invité en 79 à Cordoue pour représenter Dialogue avec l'ange en tant que pont, justement, entre la science et la conscience, parce que l'ange nous apprend l'émerveillement. Et quand le sourire est là, il y a aussi une infinie bonté de don de soi, et Dialogue avec l'ange nous invite à pratiquer le sourire. Et c'est vrai que quand on se demande où on est, quand on ne peut pas sourire, mais d'un coup, ça nous redresse, ça nous verticalise, ça nous permet de nous mettre dans une intensité. Et le sourire va être le remède pour beaucoup de souffrances, un sourire profond, un sourire de chaque cellule. L'ange dit, la prière, c'est le sourire de chaque petite cellule.
C'est un livre, quand je vois les personnes que je connais qui l'utilisent, qui se lit pas forcément du début à la fin, mais qu'on a souvent envie d'ouvrir. C'est plutôt un livre qu'on peut ouvrir pour avoir une réponse à un moment donné à une question qu'on se pose, ou un peu comme le Yiking d'ailleurs a un peu cette fonction-là. Oui. Et parce qu'il finalement, il aborde tout un certain nombre de questions qui nous renvoient toujours à une situation de vie, à une attitude intérieure à développer, à des qualités à développer, à un juste regard à avoir sur l'existence. Est-ce que vous l'utilisez vous-même de cette manière, un peu en l'ouvrant de temps en temps au hasard ?
Oh oui, beaucoup, beaucoup. Et dans les ateliers que je fais, nous suivons quelquefois les dates qui étaient à l'époque, les dates. Et aussi, j'ai dans mon cabinet, à l'entrée, j'ai un paquet de citations de Dialogue avec l'ange et tout le monde peut tirer au sort. Et quand je rencontre, là, maintenant, j'en ai dans mon sac aussi des citations découpées. Et nous avons, dans le cadre de ADDA, notre association, ADDA, c'est la racine du mot, c'est le ADD, c'est le don de soi. Et en même temps, c'est Association pour la diffusion du Dialogue avec l'ange. Et nous avons une section qui s'appelle Verbatim, et chaque jour, si on désire, on s'inscrit sur la liste, et chaque jour, on reçoit un verbatim, c'est-à-dire une citation de Dialogue avec l'ange, et ça dure depuis 5 ans ou 6 ans.
Je donnerai tout à l'heure les références de cette association. Est-ce que vous savez à combien d'exemplaires le livre a été diffusé dans le monde ?
Non, personne ne peut savoir, mais nous savons que c'est traduit en 24 langues maintenant, mais édité seulement en une vingtaine de langues. Et il y a des traductions qui sont en cours, et il y a beaucoup d'éditions qui sont épuisées. comme l'édition italienne, l'édition
Mais c'est probablement plusieurs millions d'exemplaires.
Ah, des millions et des millions et des millions d'exemplaires. Ah, ça, c'est sûr. Moi-même, dans le cadre de Ada et Grâce à Juliette, nous avons édité en hongrois parce que dans sa langue maternelle...
Il n'avait pas été encore publié.
Non, c'était pas publié. En 88, il y avait une ébauche de publication. Mais en 2005, véritablement...
En tout cas, je suis frappé de voir, moi, comme c'est un livre qui a inspiré beaucoup d'autres livres. C'est-à-dire que je vais prendre un seul exemple, L'alchimiste de Paulo Coelho, qui s'est diffusé à 100 millions d'exemplaires dans le monde. Le cœur de tout son message, c'est de dire, au fond, l'univers conspire pour réaliser... ce qui est votre désir le plus profond en vous et qui vous met dans la joie, dans l'enthousiasme. C'est ce que vous nous expliquez exactement tout à l'heure en disant, voilà, on a tous une vocation, une tâche. Oui. Paulo Coelho parle de légende personnelle, c'est un mot plus poétique
que tâche,
mais c'est exactement la même chose. Merci. Donc c'est vrai que c'est un livre qui a nourri beaucoup d'autres livres qui parlent de spiritualité, de développement personnel, de mystique. Et on va écouter un dernier extrait pour clore cette émission, toujours lu par Juliette Binoche.
Élevez vos sentiments. Qu'est-ce qui les élève ? L'aspiration ? Non. La foi ? Elle n'est que possibilité. La force qui élève, c'est le don de soi, l'offrande de soi. Il n'y a qu'une adoration, ad don. Il n'y a qu'un acte, ad don. Il n'y a qu'un seul nom qui agit, ad don. Que la connaissance s'ouvre en vous. La connaissance n'est pas le savoir. La connaissance est la lumière qui est, qui agit, qui donne.
Alors, on en revient toujours à l'amour, hein, c'est ce que vous disiez, c'est vraiment le don qui est au cœur, mais un don qui se fait dans la joie, un don qui n'est pas...
Libre, voilà. Liberté. Totale.
Liberté, joie, don, c'est un peu le triptyque qu'on retrouve.
Oui, et un jour j'ai demandé à Gita, mais comment je peux être sûre que j'accomplis ma tâche, quelle est ma tâche, maman? Elle a dit, mais déjà, ne fais jamais ce que les autres peuvent faire à ta place. Et c'est très profond.
Donc vous
c'est
cherchez...
la transfiguration.
C'est ce que j'allais vous dire. Si on le prend au premier degré, il y a beaucoup de tâches que beaucoup de gens peuvent faire qui ne sont pas forcément
mais
des tâches.
Mais la tâche profonde, la tâche individuelle, la tâche unique.
Quelle est notre vocation unique?
Vocation, voilà. Notre légende personnelle.
Voilà, dans ce
que
sens-là.
Que personne d'autre ne fera. Et elle a dit, personne d'autre n'aurait fait connaître Dialogue avec l'ange. Et c'est pour ça, ma tâche, c'était... J'ai accompli ma tâche.
Et puis vous êtes aussi une thérapeute, hein, je le rappelle.
Oui. Et c'est un grand bonheur pour moi de voir dans Dialogue avec l'ange ce passage que les forces de l'univers se retrouvent en toi. C'est tout à fait la médecine chinoise. Et que tu es le battement de ton cœur est un avec le battement de cœur de l'univers. Et que chacun de tes organes est relié à des forces cosmiques. Et que tu n'es jamais seul. Avant, je croyais que je suis isolée et depuis Dialogue avec l'ange, quand l'ange dit par exemple à Lily, tu étais conçue dans une joie infinie avant le commencement du monde. Mais ça donne une ouverture extraordinaire au-delà du temps. Et nous nous enracinons tous dans un monde créateur et en nous, ce monde créateur bouillonne, brûle, nous rend vivants. Et c'est stupéfiant que nous avons peur de ce monde créateur parce que oui, en effet, ça nous remet en question, ça nous déshabille, ça enlève nos prétentions et ça nous transforme, transfigure et ça nous permet d'être humbles et transparents et incandescents dans le meilleur des cas. Et puis aussi, nous montre un miroir de nos faiblesses, de nos incapacités. Et ce qui est admirable, c'est que Gita n'a jamais enlevé des passages désobligeants pour elle, parce qu'elle a quelquefois... des questions qui ne sont pas vraiment à la hauteur, mais elle n'a jamais censuré ce livre. Elle a donné tel quel à nous tous.
Cette émission va bientôt se terminer. Nous allons quand même, dans un bref agenda culturel avec vous, Marguerite Cardoz, un petit peu donner quelques informations pratiques liées au dialogue avec l'ange. Donc je rappelle le livre, hein, les dialogues avec l'ange. Vous avez également le site internet dialogue au pluriel-ange.fr. C'est un site qui rassemble, présente des documents inédits sur l'histoire des dialogues avec l'ange, les manuscrits originaux, des interviews, des témoignages, etc. Et puis vous nous parliez de l'association ADA, qui est également un site. On mettra d'ailleurs ces sites internet sur notre propre site internet des Racines du Ciel. Et dans le cadre de cette association ADA, qui vise à, dont vous êtes la présidente, qui vise à diffuser les dialogues avec l'ange dans le monde entier, vous faites des conférences régulièrement au Forum 104 à Paris, 104 rue de Vaugirard, hein, un lieu de conférence que je connais bien aussi, que j'aime beaucoup. La prochaine conférence est le 15 mars. Il y aura également en avril, mai, juin. Donc vous trouverez toutes ces informations, si ça vous intéresse, sur le site ADA, A-D-D-A. Je crois que vous vouliez parler de quelques livres, Marguerite Cardoz, pour finir.
Oui, je voulais conseiller Le Dernier Convoi de Eva Danoche, qui est l'épilogue tragique des dialogues avec l'ange. C'est là où on voit finalement que Lily et Hannah, jusqu'au bout, avec une noblesse et avec un amour inconditionnel, ont tenu. Et bon, on voit leur mort. C'était douloureux.
Le Dernier Combat, c'est un livre qui vient de sortir chez Albin Michel. Donc,
voilà.
Il raconte la fin de l'histoire pour ces deux jeunes femmes déportées.
Et de François Schenk, j'aimerais recommander La Joie, parce que c'est tout à fait en écho avec Dialogue avec l'ange, et François Schenk aime beaucoup Dialogue avec l'ange, et de Pierre Rabhi, tout ce que Pierre Rabhi a fait, il est aussi un grand lecteur de Dialogue avec l'ange, et moi j'ai amené ici La Part du Colibri, parce que c'est le livre le plus petit, et bien sûr je conseille de lire les 4 livres que Gita a écrit comme explication aux questions qui lui étaient posées. Dialogues tels que je les ai vécus, dialogues l'enfant né sans parents, les dialogues saut dans l'inconnu et les dialogues d'hier et d'aujourd'hui.
Alors Marguerite, une dernière chose, je crois que vous vouliez nous lire un dernier extrait des dialogues pour clore cette émission.
Merci de me permettre. Brûlez, vivez, remplissez-vous de lumière. Levez-vous, éveillez-vous, votre lumière est nécessaire. Annoncer les lois nouvelles. Ce qui était impossible est possible. Ce qui était valeur tombe en poussière. Ce qui était essentiel sombre. Ce qui était disparaît dans le néant. Mais la matière lumière brille. Merci beaucoup.
Merci à vous, Marguerite Cardoz, d'être venue nous parler. Merci.
C'était un des derniers, c'est le 4e
message.
Septième
message. Merci à vous. Merci. Et merci à Juliette Binoche aussi pour la lecture des textes.
Merci.
Vous pouvez télécharger cette émission pendant une semaine et la réécouter sur notre site internet franceculture.fr. La semaine prochaine, je reçois Franz-Olivier Gisbert pour son livre « Dieu, ma mère et moi ». Tout de suite, vous retrouvez le journal de 8h. Excellent dimanche à tous.